Atlas présente Nouvel itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.
Changement de mode de vie, acquérir de nouvelles compétences, saisir de nouvelles opportunités, besoin tout simplement de relever de nouveaux challenges. Les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir évoluer professionnellement ou à nous reconvertir peuvent être nombreuses. Bienvenue dans Nouvel itinéraire. À chaque nouvel épisode, sa nouvelle histoire inspirante. Voici celle de Franck.
Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 58 ans, je suis ardéchois, installé à Lyon depuis 1989, dès la fin de mes études.
Nouvel itinéraire.
Je suis titulaire d'un bac E, donc maths et techniques. J'ai souhaité en fait entamer des études supérieures dans le BTP, sans avoir une réelle notion du métier que je voulais exercer plus tard. J'ai tout d'abord fait en fait un BTS équipement technique du bâtiment, avec une option génie climatique qui correspondait tout simplement aux enjeux de l'époque, qui était de réaliser des bilans thermiques, d'accompagner en fait des maîtres d'ouvrage sur la transformation de leur bâtiment. Ce choix s'est fait presque naturellement puisque j'avais un double attrait, à la fois de travailler sur des éléments conceptuels. Quand on est jeune, on travaille sur des plans, sur la technique de construction, et donc de réaliser des études, mais aussi d'avoir une traduction concrète sur les réalisations, que ce soit au travers tout simplement des projets, des chantiers et des opérations qui étaient traitées. Et il y a un goût particulier pour les chiffres, assorti en fait tout simplement d'une vraie capacité d'analyse. J'ai poursuivi mes études avec une licence pro en économie de la construction, qui était réalisée en alternance avec un bureau d'études qui était une filiale de l'Union sociale pour l'habitat. À la fin de cette formation, en fait, je suis rentré directement dans la vie professionnelle auprès d'un maître d'ouvrage public, qui était d'ailleurs bailleur social, avec différentes expériences tout au long, en fait, d'une quinzaine d'années. J'ai commencé par une fonction de responsable d'opération, que ce soit pour la réhabilitation, l'acquisition, amélioration et donc la construction. Et puis, très rapidement, des responsabilités sont arrivées comme responsable de service et directeur tout simplement de la maîtrise d'ouvrage, direction qui assurait la production de l'offre nouvelle de l'opérateur ainsi que la réhabilitation de son patrimoine. J'ai rejoint ainsi l'équipe du comité de direction. Très rapidement, je me suis rendu compte que manager des projets, maîtriser des budgets, c'est quelque chose qu'on a en soi. Développer des outils de gestion, c'est des choses qu'on développe. Accompagner en fait sa propre entreprise sur des arbitrages qui soient budgétaires, d'investissement, de maintenance, c'est quelque chose de très enrichissant. Et donc c'était une manière de faire la formation initiale que j'avais d'économiser la construction au sein en fait d'un maître d'ouvrage et de l'aider à faire ses bons choix, ses bons investissements. La montée en responsabilité au sein de cette entreprise a généré chez moi un certain nombre de souhaits, notamment de compléter en fait ma formation initiale par d'autres formations. Et donc effectivement, j'ai été amené à reprendre mes études. J'ai souhaité tout simplement compléter une formation technique par des formations de gestion. Alors de deux natures. La première, c'est une formation, on va dire, juridique tournée autour de l'immobilier au sein de l'Institut donc juridique appliqué à la construction. Donc c'était en fait un certificat d'études juridiques immobilières. Et une compétence un peu nouvelle, une compétence de management d'entreprise. J'ai fait en fait un master en management et administration des entreprises, ainsi qu'un diplôme universitaire de gestion d'entreprise auprès de l'Université Lyon 3, Jean Boulin, à Lyon. J'ai été amené à m'interroger en fait sur mon avenir, sur la poursuite tout simplement de mon travail. Et très rapidement, j'ai pris la décision, en analysant plusieurs facteurs, qu'il fallait que je quitte l'OPAC du Rhône. Donc, d'une part, par rapport à des choix propres à l'entreprise, hein, et à titre personnel, on arrive en fait à un poste de dirigeant. Alors au sein d'une société, on est salarié, mais toujours est-il, on a 40 ans. Et là, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, l'envie de construire différemment, d'aller plus loin, d'aller plus vite, peut-être tout simplement. Je me suis interrogé sur quelle était en fait l'organisation la plus adaptée pour répondre à ces questions qui étaient à la fois personnelles et professionnelles, et ce que j'avais envie de faire, là où j'avais envie d'être, ce que je voulais apporter tout simplement, quelle était ma contribution. Et très rapidement, je me suis installé comme chef d'entreprise. J'avais pris la décision de devenir entrepreneur avant même de prendre la décision de quitter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était en soi. J'ai quitté ce statut de salarié pour devenir entrepreneur. Personnellement, ça a quelque chose de très très riche. Ça m'a permis tout simplement de basculer dans un monde que je connaissais pas, mais qui m'a apporté énormément de choses par la suite. Dans ce projet personnel, donc, qui était en fait de création d'entreprise et puis de me positionner par rapport à mon métier d'économiste sur un marché, j'ai pris une décision qui était d'abord de créer une société. Cette société devenant en fait un véhicule pour moi pour acheter une autre société, c'était tout de suite aller vers une une croissance externe, donc la reprise d'une structure existante qui était créée depuis 1989, qui était une société qui ne faisait que de l'économie de la construction, qui était reconnue sur son territoire, qui avait une réelle expertise en fait en matière d'économie de la construction. Et donc j'ai rejoint cette structure avec la volonté tout simplement de la reprendre, le dirigeant cherchant un repreneur. Cette société, c'est celle que je dirige aujourd'hui, qui s'appelle Corel. Elle deviendra Corel au bout de quelques années. Une société sur laquelle en fait j'ai pu m'engager en deux temps. Un premier temps qui a duré 6 ans, qui était plutôt un temps d'appropriation en fait de ce nouveau métier. Chose que j'avais décidé tout de suite, c'est-à-dire de prendre le temps tout simplement de bien connaître tous les codes en fait du dirigeant. Et un deuxième temps qui arrivera derrière, qui était de prendre le mandat social tout simplement de cette société.
Nouvel itinéraire.
Et pour en savoir plus sur sa nouvelle vie, eh bien je suis ravi, moi, de recevoir en plateau Franck. Bonjour Franck, comment vas-tu ?
Bonjour Jean-Baptiste, je vais très bien, merci.
Bon, cool, on vient d'écouter à l'instant ton parcours avec attention. On va être maintenant focus, si tu le veux bien, sur ton activité d'entrepreneur à la tête de ton entreprise. Tiens, la première question que j'ai envie de te poser comme ça, pourquoi d'abord ce choix de reprendre une entreprise plutôt que d'en créer une toi-même ?
Alors en réalité, j'ai d'abord pris la décision de créer. C'est-à-dire que très vite, j'ai pris la décision de créer une entreprise qui d'ailleurs aujourd'hui existe. Très rapidement, s'est posé la question en fait de la taille et de la nature des opérations que je souhaitais traiter. Et là, je me suis rendu compte que créer une société avec une seule personne, c'est quelque chose qui me permettait pas d'atteindre cet objectif. Donc pour faire face, en fait, j'avais deux possibilités. C'était poursuivre autour de cette société nouvellement créée et de la faire croître par l'interne, ou alors tout simplement de me tourner vers une structure existante à manière de la reprendre et d'envisager tout simplement son adaptation à ce que je voulais faire tout simplement. Et c'est la deuxième solution que j'ai choisie effectivement.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile a priori ? C'est de créer son entreprise de toutes pièces ou d'en reprendre une ?
Créer finalement, c'est assez simple. Donc j'ai créé pour reprendre. Donc aujourd'hui, j'ai un retour sur ce que c'est qu'une reprise. Reprendre une société, en fait, c'est un exercice qui est très très complexe. Elle repose sur l'antériorité même de cette entreprise, que ce soit son positionnement, ses atouts commerciaux, sa santé financière, le personnel. Et donc finalement, c'est très très complexe. Ce que je peux dire a posteriori, c'est que j'ai totalement sous-estimé l'inertie d'une telle démarche, puisque ça prend du temps, en fait, de muter une entreprise existante.
D'accord. Quelle différence finalement de responsabilité entre le poste de directeur que tu occupais et celui de président ?
Alors, c'était en fait une reprise qui s'était faite en deux temps. Donc, dans un premier temps, j'étais ce que on nomme directeur général. Donc, j'avais en charge toute la production, laissant en fait au président la responsabilité, notamment de mandataire social. Donc, j'étais très orienté sur tout ce qui était lié à la production d'entreprise, tout simplement sa valeur ajoutée. Tous les actes de gestion étaient restés sous le champ du président.
Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas dans le milieu et qui t'écoutent en ce moment, ça consiste en quoi, concrètement, le job d'économiste de la construction ?
C'est un très beau sujet, c'est le plus beau métier du monde. En tant que généraliste de la construction, notre rôle, en fait, est de fournir une vision globale des coûts et aujourd'hui de la décarbonation en tenant compte, en fait, de tous les aspects, en fait, d'un projet, que ce soit à court terme ou à long terme, des investissements, de l'exploitation et de l'usage. Nous sommes, en fait, experts du prix et des coûts et nous accompagnons les clients pour les aider à prendre la meilleure des décisions, la décision la plus juste et la plus efficace à tout moment d'un projet. Voilà. Donc, c'est simplement permettre à nos clients de décider au bon moment, en pleine connaissance des enjeux. Voilà. Donc, je le répète, c'est un très beau métier.
Et les qualités maintenant requises pour pouvoir exercer ce type de profession ?
Alors, on parle plus dans la profession, en fait, en réalité, d'aptitudes professionnelles. Je vais en citer quelques-unes. Il y a le goût pour les chiffres, ça a sorti d'une bonne capacité de synthèse. Donc ça, c'est déterminant. Si vous passez votre temps à planifier, à analyser, à projeter financièrement des opérations, il faut que vous aimiez les chiffres. Ensuite, il faut que vous ayez ce sens de la précision. En fait, l'économie de la construction estime des coûts, quelle que soit la phase. Plus la phase elle est avancée, plus l'estimation doit être précise. Donc, il faut avoir ce sens, en fait, tout simplement de la précision, du détail. Je rajouterais qu'une des difficultés que l'on a, c'est de pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc, il faut être très performant dans le thème de la communication. Un des atouts d'un bon économiste, c'est d'être un bon pédagogue qui sache en fait vulgariser tout simplement les données qui sont quelquefois indigestes pour nos clients. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on parle de prix et de coûts, en fait, tout le monde veut s'approprier en fait ce sujet. Et la vraie difficulté, c'est de bien mesurer en fait ce dont on parle. Et ça, c'est une vraie aptitude professionnelle pour l'économiste. Ensuite, on travaille aujourd'hui dans un environnement qui est instable, qui évolue énormément, lié notamment à la décarbonation. Donc, il faut avoir cette capacité d'innovation. on est amené à travailler sur des sujets en fait qui sont juste existants, qui viennent de naître, et pour pouvoir proposer en fait à nos clients des solutions techniques, il faut qu'on ait cette capacité-là. Donc c'est le cumul de toutes ces aptitudes professionnelles avec à la fois le goût du contact, puisque on est amené à travailler, je dirais, de manière sédentaire avec des architectes, des ingénieurs, mais aussi sur les terrains, travailler avec des entreprises et des maîtres d'ouvrage.
En tant que président de ta boîte, je ne sais pas si tu as des journées types, mais en tout cas, quelles sont tes différentes missions ?
Alors pour moi, c'est peut-être un peu plus facile parce que j'ai une entreprise qui est assez bien structurée, qui rayonne en fait sur l'ensemble du territoire avec 4 agences. Donc mon rôle est finalement assez simplifié hein, par rapport à un chef d'entreprise qui a une structure peut-être un peu plus réduite. Moi, en réalité, je me préoccupe de 2 choses, en fait. Je me préoccupe de garantir le bon fonctionnement de la société par rapport à, tout simplement, aux politiques, aux enjeux politiques et commerciaux. Donc, c'est le positionnement de l'entreprise sur son marché. Et ensuite, j'essaie de m'assurer de la montée en compétence de mes collaborateurs pour simplement avoir une production de qualité et puis garantir un niveau d'expertise élevé.
Franck, 2 questions en une. De salarié à dirigeant d'entreprise, quelles compétences ça nécessite en plus? Et est-ce qu'un bon salarié, finalement, devient forcément un bon dirigeant?
Alors la question, elle est complexe. En fait, je suis passé d'un généraliste de l'acte de construire à un généraliste de la gestion de société. Donc c'est le parcours que j'ai suivi pour devenir en fait un bon économiste salarié à un économiste chef d'entreprise. Le plus important pour un dirigeant, c'est ce fameux pas de recul en fait qu'on est obligé de prendre, se donner un minimum de distance face à des situations qui nous permettent tout simplement de se détacher, de prendre des décisions objectives, de prendre les bonnes décisions. Par rapport à la question posée, est-ce que c'est possible en fait un bon salarié peut devenir un bon dirigeant? J'aurais tendance à dire que c'est plus complexe que ça. Ma réponse spontanée serait non. C'est un peu de la même manière que dans l'évolution en fait d'une pyramide hiérarchique où on s'aperçoit en fait qu'il faut un certain nombre de compétences. Pour passer en fait de celle de salarié à dirigeant, il faut effectivement avoir des aptitudes particulières de dirigeant et puis il faut élargir son champ tout simplement de compétences.
Alors, ce serait bien si j'avais tes collaborateurs en face de moi, mais c'est pas le cas. Mais quel type de dirigeant tu es, toi ?
Alors, il faut leur poser la question, mais ils sont pas là. Je me définis, en fait, alors je pense assez bien dans ma boîte comme un leader qui est passionné. En fait, je fais adhérer à mon projet autour de la passion que je développe, qui transmet tout simplement son savoir, ses idées, avec des valeurs essentielles. Il faut savoir que dans l'économie, une des valeurs essentielles, c'est la probité. Voilà, donc c'est ce cumul en fait de valeurs peut-être qui font qu'aujourd'hui, c'est ce qui me caractérise tout simplement.
Et qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant toute cette période de transition de salarié à dirigeant ?
Alors j'ai surtout appris dans la première phase en réalité qu'un chef d'entreprise fait face souvent à l'isolement. Alors surtout quand il est en difficulté, c'est-à-dire que il se trouve seul au monde, il a des choses à gérer qui sont très différentes de ce qu'il est fond de lui, c'est-à-dire qu'en fait il est d'abord un économiste, un technicien, puis ensuite il découvre de nouveaux envers, donc c'est l'isolement. Très rapidement on se rend compte qu'en fait il y a des valeurs comme la résilience qui viennent compter ceci, et en fait il faut qu'il construise lui-même son propre réseau tout simplement pour faire appel à des gens qui peuvent l'accompagner dans ce type de réflexion. Ce qui est certain, c'est que on se rend compte que ce cheminement en fait fait grandir l'homme en qualité de dirigeant, c'est-à-dire que c'est le cumul en fait de tous ces questionnements qui fait qu'un jour il devient un dirigeant peut-être reconnu.
Alors, c'est toi-même en répondant à la question précédente, tu as commencé à parler de difficultés. Alors justement, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés le dirigeant que tu es ?
Si je prends le côté métier, en réalité, je m'aperçois que la plus grosse difficulté, c'est d'avoir un environnement instable. En réalité, on est sur une profession qui est constamment en mutation. Donc ça, c'est la partie, on va dire, professionnelle. Sur la partie managériale, donc côté entrepreneur, ce qui est, je dirais, une réelle difficulté, c'est de faire face en fait à toutes ces contraintes. Alors elles sont administratives, elles sont fiscales, elles sont financières et autres, ce qui nous sort en fait tout simplement de ce que l'on est. Voilà. Donc c'est cette dualité là qui est difficile à gérer. Ce qui est évident en fait, c'est que en fait il faut toujours le faire dans l'intérêt de son entreprise, qu'elle soit technique ou qu'elle soit en matière de gestion.
Quels sont au contraire les vrais motifs de satisfaction?
Alors aujourd'hui, je dirige en fait une entreprise avec des salariés qui ont réellement un fort potentiel, des salariés qui ont été recrutés tout au long en fait de mon parcours. La plupart en fait de l'équipe dirigeante aujourd'hui de Corel, ce sont des gens qui m'ont accompagné dans les premières difficultés. Ce sont aujourd'hui très clairement des vrais leviers pour faire perdurer la société. Et donc, ce qui est un réel motif de satisfaction, c'est ça, c'est-à-dire avoir réussi à construire quelque chose qui aujourd'hui peut tenir presque tout seul. Et pour Corel, sincèrement, c'est le cas.
Tu es également le président de l'INTEC, l'Union nationale des économistes de la construction, syndicat de la profession. Pourquoi cette double casquette ?
Alors déjà, c'est pas quelque chose qui était programmé. Quand on parlait tout à l'heure de parcours personnel et professionnel, c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé. On se rend compte qu'en fait, entreprendre, c'est un engagement fort qui est riche très humainement. J'ai eu la chance de rejoindre en fait une équipe, l'équipe précédente, et donc en fait défendre et promouvoir la profession est un autre engagement, un engagement très très fort. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Je ne sais pas si c'est lié à mon statut un petit peu de leader. Toujours est-il, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très très intéressant. C'est-à-dire qu'on passe l'individu qui fait son métier en qualité de salarié, un individu qui crée sa boîte, qui est en recherche, qui fait l'extension, qui la positionne, et aujourd'hui défendre la profession, promouvoir la profession, la faire évoluer dans un cadre qui, comme je le disais tout à l'heure, est instable, quelque chose de voilà de très très riche.
Dans quelle mesure ce que tu fais aujourd'hui fait vraiment sens pour toi ?
En plus, ça fait de plus en plus sens. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, quand je regarde mon parcours, que c'est une voie qui était comme toute tracée. J'ai débuté pour faire en fait le mieux possible au regard de mes responsabilités, quel que soit d'ailleurs le niveau de responsabilité qu'on pouvait avoir, que ce soit salarié, que ce soit entrepreneur, et que aujourd'hui, très clairement, on se rend compte que cette mutation, notamment liée à des événements récents comme notamment les évolutions environnementales, pose un vrai sujet. Donc ça donne du sens, effectivement, le positionnement de la société. C'est un engagement qui est à la fois personnel et collectif. C'est quelque chose qui apporte une vraie richesse. Notre profession, si je reviens sur l'économiste, doit montrer en fait l'impact de tous les projets sur le plan environnemental et sociétal. Ça, c'est une vraie richesse nouvelle. On n'avait pas ça il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il faut savoir peser un projet. Il faut savoir dire quel impact il a à la fois pour l'environnement et pour la société. Ça a du sens. C'est-à-dire que ça me paraît, comme je le disais, comme un cheminement. Et aujourd'hui, c'est une lecture, en fait, qui est très, très intéressante parce que la grille de lecture que nous avons, nous, techniciens du bâtiment ou tout simplement les acteurs de la construction, c'est une lecture qui est totalement inappropriée et donc obsolète et que nous devons de guider, en fait, les dirigeants pour aller vers cette voie-là. Donc voilà, c'est un sens. C'est même intéressant parce qu'il semblerait que cette voie en fait qui est toute tracée était un petit peu initiée.
Est-ce qu'il t'arrive malgré tout de temps en temps comme ça de regretter ton ancienne vie de salarié ?
Alors étrangement, je vais dire doublement non. Alors je vais d'abord dire un premier non parce que je regrette pas mon statut de salarié. Je suis heureux d'être chef d'entreprise. C'est une grande liberté. C'est aussi très complexe. C'est très riche pour l'homme. Ça le fait grandir. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai un second nom parce que même être chef d'entreprise, des fois, ça peut être mis en question, surtout quand les périodes sont difficiles. Après avoir traversé plusieurs périodes très complexes, on retient que le positif. Donc très clairement, c'est un double nom. Aujourd'hui, je suis un autre homme. J'ai été un homme salarié, j'ai été un homme dirigeant, j'étais un homme dirigeant dans un contexte un peu contraint. Aujourd'hui, très clairement, je suis plus le même homme.
Ok. Et est-ce que cet homme, il pourrait encore évoluer et la carrière, elle évoluerait comment du coup ?
Alors déjà, on n'est plus très jeune, petit parcours.
Oh, t'as encore du temps devant toi.
Oui. En fait, dans l'entrepreneuriat, en fait, rien n'est jamais acquis. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que les choses évoluent constamment. On peut être amené à rencontrer des difficultés. On peut avoir des difficultés tout simplement de marché économique ou autre. Tout simplement, une entreprise qui est mal positionnée. Ma principale aujourd'hui préoccupation pour, alors ce que j'appellerais peut-être ma fin de carrière, c'est d'œuvrer pour simplement pour assurer la pérennité de la structure, tout en développant en fait son engagement sociétal.
Finalement, entre nous comme ça, Franck, qu'est-ce qui te motive toi chaque matin à te lever, d'avoir la banane et d'aller bosser ?
Petite particularité, c'est que je n'ai aucune difficulté. Je me lève très très tôt. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ça. Je pense que quand on est passionné, on y arrive. Et puis très clairement, quand on se retourne, la vie est belle.
Quel conseil tu pourrais donner, toi, à d'autres personnes qui envisageraient justement une aventure entrepreneuriale ?
Alors, entreprendre, en fait, est une belle et riche aventure qui doit être essentiellement maîtrisée, hein, sur le fond et sur la forme. On peut pas partir comme ça. Aventure, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé. Ça veut dire qu'en réalité, on a le sentiment qu'on part sur un chemin et puis on se laisse le chemin guider. En réalité, non. Ça reste une aventure, mais ça va être une aventure parce qu'en réalité, il va y avoir plein de choses à gérer. Toujours est-il, il faut essayer de maîtriser à la fois la forme et le fond. Certains ont ça en soi, donc c'est très clair. Je crois que c'est une aptitude particulière. Entreprendre, c'est pas simple. Il faut avoir ça en soi. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'écouter, il faut croire en soi, il faut se décider tout simplement.
Et quelle question, d'après toi, il est primordial de se poser justement avant de se lancer dans cette aventure ?
Ben, la question peut-être que je me suis posée à 36 ans, je crois, c'est quel est mon projet à la fois professionnel et personnel? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quelle est l'organisation la plus adaptée pour y répondre? Voilà, ce sont un somme de questions qui nous amènent, en fait, vers ce choix d'entreprendre.
Un grand merci à toi pour ton témoignage, Franck.
Merci à toi.
Nouvel itinéraire.
Les économistes de la construction font partie de la branche FIAC, géomètre et économiste de la construction, une branche qui compte d'ailleurs 16 000 salariés, dont 6% sont en contrat d'alternance, 53% des salariés ont moins de 40 ans, on compte 37% de femmes économistes. Économistes de la construction, maîtreurs vérificateurs, ingénieurs d'études de prix, assistants à la maîtrise d'ouvrage, entreprises, managers projet BIM, de nombreux postes d'économistes sont actuellement à pourvoir et pour en savoir plus, justement, tiens, sur une reconversion, mais aussi sur les formations en alternance dans ce secteur d'activité précisément. Eh bien, toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le site concepteurdavenir.fr. Merci de votre attention et à très vite dans Nouvel Itinéraire, un podcast disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.
Atlas vous a présenté Nouvel Itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.